10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et quel plaisir que de vous retrouver tous les week-ends pour une heure pour parler d'islam avec l'imam Abdelali Mamoun qui est avec nous. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban al-jami'. Ravi d'être avec toi, avec toute l'équipe de Beurre FM et avec tous nos auditrices et auditeurs fidèles tous les samedis.
Un autre rendez-vous.
Non.
Alors tiens, on va parler d'un sujet. Alors je ne sais pas s'il est très drôle, c'est l'austérité. Alors vous l'entendez dans quel sens l'austérité, imam Abdelali ?
Alors, je le considère comme étant une vertu prophétique, puisqu'on a dit que la thématique devait s'articuler sous forme de vertu du prophète, cycle de la vie du prophète et enfin la question de l'enfant que l'on retrouve tous les samedis.
Mais il faut le définir parce que quand on dit de quelqu'un par exemple qu'il est austère, vous voyez,
c'est, voilà. Alors l'austérité c'est dans le sens économe, dans le sens quelqu'un qui ne vit pas que pour gagner de l'argent ou qui ne vit pas avec le souci simplement de s'enrichir, d'emmagasiner et surtout de dépenser, tout va bien, tout va n'importe comment, et donc d'être dans l'abondance excessive. Voilà, c'est un petit peu le terme qu'il faut utiliser. Donc l'austérité, c'est faire preuve de rigueur quant à sa manière de consommer, quant à sa manière de dépenser l'argent, et aussi l'austérité, c'est aussi quant à sa manière de gagner l'argent. Parce qu'on peut très bien être austère, c'est-à-dire très économe pour dépenser de l'argent, mais malveillant et voire même parfois malfaiteur quant à la manière d'acquérir cet argent. Il faut l'acquérir avec des moyens licites. C'est-à-dire on va pas aller escroquer les gens, voler, tricher, etc. pour s'acquérir... pour s'enrichir, quoi, pour devenir quelqu'un de avec une certaine opulence dans la vie d'ici-bas. Donc, ce qui est très important à signaler, c'est que quand on parle de la vertu prophétique qu'il était, dans lequel on disait qu'il était ascète, austère, donc qui faisait preuve d'ascétisme et d'austérité, on parle d'un personnage qui avait l'ascétisme dans le cœur et l'austérité dans le cœur. C'est-à-dire que l'important, c'est qu'il ne ressente pas l'amour des biens de ce bas monde, que tout ce qui était mis à sa disposition restait dans sa main et jamais ne s'ancrait dans son cœur. C'est-à-dire de manière à ce que s'il le perdait ou qu'il l'acquérait, cela ne changeait en rien son état psychologique. Il ne s'attristait pas de perdre de l'argent et cela... ne créez pas une euphorie que d'acquérir de l'argent. Pour lui, au contraire, et c'est l'acquérir de l'argent suscitait chez lui de la crainte, de la peur, de s'assurer, que comment il l'a acquis, eh bien, c'est une manière licite, et le souci de comment il va le dépenser et comment il va l'utiliser à bon escient pour servir les gens autour de lui, mais aussi, pourquoi pas, en profiter lui aussi. Hein, l'austérité, ce n'est pas vivre comme un clochard avec des habits déchirés ou tout usé. Non, l'austérité, c'est d'abord l'austérité du cœur, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'attachement au bien de ce bas monde. On peut, par exemple, avoir une collection de Nike, par exemple, hein, n'est-ce pas, Philippe ?
Ah non, mais attendez, moi, j'ai rien fait.
Mais que si demain,
j'ai rien fait.
Que si quelqu'un il rentre chez toi, il te pique ta collection, voilà, ça va rien te faire. Par exemple, tu vois, si l'imam il vient chez toi, Philippe, il te pique ta... voilà, tu t'en fous, tu te dis, voilà, c'est fils à Billah, quoi.
Oui, non, mais je sais, mais parfois on est attaché à des choses qui ne méritent pas qu'on soit, en fait.
Voilà, avoir des hobbies dans la vie, avoir envie de faire la collection de certaines choses, etc., qui peuvent parfois coûter de l'argent, c'est pas interdit. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas que ça soit au détriment des gens à qui vis-à-vis de qui on a des obligations ou tout simplement vis-à-vis de ce que l'on doit assumer comme obligation dans la vie, mais on a le droit de se faire plaisir, c'est pas interdit, mais
l'austérité ça veut pas dire être pauvre, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est un comportement,
ça veut dire ne pas avoir d'attachement des biens de ce bas monde dans son cœur, mais il est au contraire recommandé que d'enrichir ses mains des richesses de ce bas monde pour acquérir une certaine puissance, parce qu'on sait que la force et la puissance passent aussi par l'argent. On dit l'argent c'est le nerf de la guerre. On dit pas l'islam c'est pas d'appeler les gens à devenir pauvres. C'est pas du tout ça. Ce que Dieu attend de nous, il dit voilà, il y a toutes les richesses dans ce bas monde, mais abandonnez-les pour moi. Abandonnez-les, oui, dans votre cœur, mais pas dans vos mains. Mettez-les au contraire dans vos mains et au service de la création. Quand j'ai de l'argent, je vais par exemple aider les nécessiteux. J'ai de l'argent, je vais aider une population qui a été victime, je sais pas moi, d'une guerre ou d'un tremblement de terre, etc. Donc je vais utiliser cet argent à bon escient. Donc je vais être capable d'utiliser cet argent-là pour faire le bien et même pratiquer l'adoration de Dieu. C'est-à-dire faire en sorte qu'elle soit un outil d'adoration. J'aime beaucoup... le découpage qui est fait justement par énormément de savon
de Marseille.
Oui, non, pas de Paris.
D'Alep.
Non, c'était des anciens savons. Des savons. Je sais pas pourquoi je répète savon.
Je sais pas.
Alors, ces savons-là, nous avons par exemple l'imam Ahmed bin Hanbal qui disait az-zuhdu 'ala thalathati awjuh. L'austérité se divise en trois parties. Première partie, celle qui concerne le commun des croyants. C'est le fait de faire preuve d'austérité de tout ce qui est illicite. C'est-à-dire de s'assurer d'acquérir des biens halal. Ça, c'est le minimum et le degré le plus bas de l'austérité, c'est d'acquérir ce qui est halal. De ne pas être dans la cupidité d'essayer d'acquérir les biens, même en utilisant des moyens malveillants et malfaiteurs. Ça, c'est le premier degré, c'est celui du commun des croyants, c'est-à-dire le plus bas degré. Vous avez ensuite celui des khawas, c'est-à-dire de l'élite, qui consiste à le fait de se délaisser de l'excès du halal, l'excès de halal, c'est-à-dire de se contenter seulement de ce qu'on a besoin, voilà, de ce qui est nécessaire, de ce que tu as besoin de ton corps. Voilà, il a besoin d'une maison, il a besoin d'un lit, il a besoin de quelques vêtements, voilà. Et puis ça s'arrête là. Le reste, j'en fais don aux pauvres. Ça, c'est un degré supérieur, c'est le degré de ceux qui ont atteint le khawas. Mais qui continuent à essayer de gagner. Ça ne les empêche pas d'utiliser leur talent, leurs compétences, leur capacité à acquérir le bien pour justement le redistribuer à bon escient. Donc ça, ce sont les khawas, c'est-à-dire les élites. Et enfin, vous avez le top des tops. C'est ce qu'on appelle le degré des arifin, c'est-à-dire de ceux qui ont pris connaissance, qui ont la connaissance de l'essence divine et qui consiste à délaisser tout ce qui va te distraire de Dieu. Donc ils sont dans une démarche spirituelle intense qui, tout ce qui va distraire l'homme de sa quête sublime et suprême, qui est Dieu, eh bien, il va s'en détacher, il va l'écarter de son chemin. Il va complètement avoir une attitude désintéressée, mais totalement désintéressée des biens de ce bas monde. On raconte justement à l'occasion un petit récit d'un homme qui avait un maître qui était très très pauvre. Ce maître, il était tellement pauvre qu'il ne possédait que une peau de chèvre. Il n'avait qu'une peau de chèvre pour faire sa prière sur lequel il dormait. Et il avait un récipient, un petit qolla, une petite cruche, un truc comme ça, pour faire ses ablutions, manger, boire dessus. Il utilisait tout, voilà, autour de ces deux objets. C'est tout ce qu'il possédait, c'était une peau de chèvre et un petit récipient, un petit pot dans lequel il utilisait pour faire ses ablutions, etc. Et il avait un élève, donc cet homme-là, et cet élève-là décide un jour de faire le Hajj. Donc le maître lui dit, bah écoute, puisque tu vas passer par Bagdad, est-ce que tu peux passer voir tel cheikh, tel imam, car c'est mon maître à moi. Est-ce que tu peux aller lui rendre visite? Et il dit, ok, je vais aller lui rendre visite. Et donc cet élève part. Et sur le chemin, il s'arrête à Bagdad et il cherche l'adresse que lui a donnée son maître pour aller voir le maître de son maître. Et là, il arrive, il est étonné, il dit non, c'est sûr, je me suis trompé d'adresse, c'est pas la bonne. Il voit un immense portail, derrière le portail, il voit un immense château avec des serviteurs, avec tout ça. Et il dit, c'est bien là qu'habite monsieur Intel. Et il dit, oui, c'est bien là, vous n'êtes pas trompé. Il dit, ah bon, c'est pas possible, ça peut pas être, en tout cas, mon maître, il est meilleur que lui. Et là, il rentre, il l'accueille, il dit, oui, est-ce que Intel, tu le connais? Oui, c'est mon disciple. Etc. C'est moi qui lui a montré la voie de la spiritualité, etc. Et l'élève, il est étonné. Je dis, oh, il est bizarre cet homme-là. Comment ça, il vit dans l'opulence, dans le luxe, etc. Alors que mon maître, lui, vit dans la pauvreté. Certainement, mon maître a dû dépasser son maître dans la foi et dans la dans l'austérité, etc. Ensuite, il continue son chemin, il va faire son pèlerinage et il revient chez lui et retrouve son maître qui lui dit son étonnement, combien il était étonné de constater que son maître était devenu quelqu'un de qui vivait dans l'opulence, qui vivait dans l'abondance, qui vivait dans le luxe, etc. Et que lui était meilleur, il considérait son maître meilleur que le maître de son maître. Et là, son maître lui dit non, mon maître reste mon maître. Il dit comment ça, ton maître? Toi, tu vis dans la pauvreté, dans l'austérité, etc. Et tu le considères encore comme étant ton maître. Lui, il a, pour moi, il a vendu son âme au diable. Il est, du fait qu'il soit riche comme ça, c'est bon, hein, c'est mort. Et là, son maître lui dit non. Il dit, la différence entre moi et lui, lui dit le maître au disciple, c'est que moi, si je perds cette peau de chèvre, rien que cette peau de chèvre, je vais pas en dormir. J'ai un attachement, ne serait-ce que sur cette peau de chèvre. Alors que lui, s'il perd tout son palais, tout ce qu'il a gagné, son cœur n'en bougera pas d'un millimètre. Il n'en tremblera pas d'une once, rien du tout. Il restera indifférent totalement par rapport à ce qu'il aura perdu. Donc voilà comment on explique la vraie austérité. L'austérité, ça n'est pas ne pas vivre dans l'abondance, mais c'est de ne pas avoir un attachement du cœur à cette abondance. Que si demain on le perd, tant pis. Moi, je connais des gens, ils ont des milliards, ils perdent ne serait-ce que 10 euros ou se faire arnaquer
des
10 euros.
Des milliards de dinars.
En euros, il y en a qui ont des...
Vous connaissez des gens qui ont des milliards d'euros?
Ben oui, il y en a qui ont des milliards, des comment s'appelle l'autre là, Pinot et compagnie.
Mais vous le connaissez pas.
Je connais pas, mais on le connaît. Lui, il me connaît pas, mais moi, je le connais. Bon, quand même. Des Lagardère et compagnie. En tout cas, ces gens-là, ils vont être super gripsous pour s'assurer de ne jamais être arnaqués, de jamais perdre un centime. En tout cas, je dis oui, mais bon, ça c'est peut-être faux. Hein. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont très riches et que c'est pas souvent ceux qui sont très riches qui sont les gens qui font le plus de sacrifices.
Mais sans parler de ces gens-là que finalement qui sont inaccessibles, est-ce que vous connaissez beaucoup en 2023 de personnes qui cultivent cette vertu prophétique qu'est l'austérité?
Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup.
Est-ce que vous en connaissez?
Oui, moi je connais des gens qui sont désintéressés, qui ne sont pas pour autant pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Mais ils sont prêts demain, il y a une construction de mosquée, tu les vois dans la mosquée au moment où l'imam fait un appel aux dons. Il se lève et il dit, moi je donne 20 000 euros, moi je donne 30 000 euros, moi j'ai vu ça. J'ai vu ça dans les mosquées. Où le gars il se lève, moi je dis, voilà, moi j'ai économisé pour aller en vacances cet été, j'ai 30 000 euros, mais j'ai mis de côté, j'irai pas en vacances. Voilà, puisqu'on a une priorité, c'est de construire une mosquée, je suis capable de. C'est ce genre d'austérité-là que l'islam attend du croyant. Pas d'être pauvre et de ne rien pouvoir apporter à la société. Parce que c'est le problème aujourd'hui, qu'on a des gens pieux, soucieux de la religion, mais qui n'ont aucun moyen de l'aider, cette religion. C'est-à-dire, quand je dis la religion, c'est-à-dire les valeurs de cette religion. Et tu as des gens qui, au contraire, sont pleins aux as, qui sont parfois même dotés d'un certain pouvoir et qui ne font rien et qui sont totalement désintéressés et totalement rattachés au bien de ce bas-monde. Et pour eux, le succès, c'est ce qu'ils peuvent acquérir dans ce bas-monde, et ils oublient totalement qu'il existe une récompense dans l'au-delà.
D'accord, mais à partir du moment où, par exemple, vous vous acquittez de Zakat al-Mal, vous avez souscrit à vos obligations.
C'est ce que je disais, ça c'est le plus bas degré, celui des communs des croyants.
Vous avez donné 2,5%. Voilà, vous avez donné en fonction de vos revenus.
Mais quand on voit... à la fin de la période de la vie du prophète, parce qu'on y viendra justement à cette histoire, qu'au moment où le prophète a organisé l'expédition de Tabouk, il fallait de l'argent, il fallait des biens, il fallait des chameaux, il fallait. Alors, tu as Uthman ibn Affan qui possédait environ 30 000 chameaux, qui fait don de 3 000 chameaux. Il dit, moi, là, 3 000 chameaux, et pas 3 000 chameaux comme ça, avec ses provisions, c'est-à-dire avec son arme, avec son bouclier, avec sa cotte de maille, avec sa nourriture, avec tous les moyens qu'il a besoin pour un guerrier, pour qu'il puisse défendre le territoire musulman menacé à l'époque par la dynastie des Rassassina, les Ghassanides, les Rassanides qui menaçaient au nord de la Mecque l'empire musulman. Eh bien, Uthman ibn Affan vient, il apporte 10% de ce qu'il possède. Donc c'est une quantité énorme, personne n'est capable de faire l'équivalent. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de le mettre... Sayyidina Omar al-Khattab, lui, il vient avec la moitié de tout ce qu'il possède. Et c'est déjà une grosse pile de choses qu'il a, d'argent, etc., d'or. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, lui, vient avec une pile moindre, c'est-à-dire plus petite que celle de Omar. Mm-hmm. Et là, Omar est content, il dit « Ah, alhamdoulilah, pour une fois, j'ai fait mieux que Abu Bakr. » Parce que lui, Abu Bakr et Omar, il y avait toujours cette rivalité, non pas dans la jalousie, mais toujours dans la concurrence à faire le bien. Et là, Omar Khattab voit que lui, sa pile à lui est beaucoup plus grosse que celle de Abu Bakr Siddiq. Et là, le prophète vient rétablir l'ordre des choses en disant à Omar, il lui dit « Qu'as-tu laissé à ta famille, à Omar ?» Et là, le prophète Omar répond « Ya Rasulallah, je leur ai laissé la moitié de tout ce que je possède. Car là, je t'ai amené la moitié de tout ce que je possède et j'ai gardé l'autre moitié à la maison. » Et le prophète va lui dire « Que Dieu bénisse ce que tu as gardé chez toi. » Allahumma barik lana fima taraktahu li ahlik. Et là, il se tourne vers Abu Bakr et là il lui dit ya Abu Bakr, wa madha anta tarakta li ahlik? Qu'as-tu laissé à ta famille? Qu'as-tu laissé à tes proches? Avec cette pile là, d'accord, OK, elle est plus petite que celle. Donc certainement tu as dû leur laisser beaucoup plus d'argent que Omar. Et là Sayyidina Abu Bakr Siddiq répond ya Rasulullah, laqad taraktu lahum Allah wa rasulahu. Je ne leur ai laissé que Dieu et son prophète. C'est-à-dire j'ai tout ramené. Tout ce que je possédais, il est devant toi. Donc voilà comment Omar Khattab, là, il a compris sa douleur que il resterait toujours inférieur en spiritualité, en austérité, en ascétisme face à ce monstre de croyance et de foi qui était Abu Bakr Siddiq. Je dis monstre au sens figuré, hein. Il s'agit pas d'un monstre au sens négatif du terme. Je parle au sens propre, au sens figuré du terme. Ce monstre de foi et de spiritualité et d'ascétisme et de piété qui était Abu Bakr Siddiq. Et là, il comprend Omar Khattab que personne ne peut rivaliser avec Abu Bakr Siddiq en matière d'austérité. Et donc voilà, on voit comment ses compagnons, comme Abdurrahman ibn Auf, par exemple, qui toute la journée gagnait de l'argent, et le soir, je termine là, le soir, il ne trouvait pas le moyen de s'endormir avant d'avoir donné tout ce qu'il possédait aux pauvres. Donc il sortait la nuit, il redistribuait tout ce qu'il avait gagné la journée, et il allait dormir allégé et soulagé dans son lit, avec le sentiment d'Alhamdulillah que j'ai pas dormi avec de l'argent de côté, et il a tout redistribué aux nécessiteux, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Dans un instant, Imam Abdel Ali, nous allons évoquer la conversion de Hamza et Omar. C'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et l'imam Abdel Ali Mamoun qui est avec vous tous les samedis entre 10h et 11h en direct sur Beurre FM. Je rappelle que vous pouvez également poser vos questions et vous pouvez interroger l'imam après l'émission sur son téléphone portable qu'on vous donnera tout à l'heure. On va évoquer un nouvel épisode de la vie du prophète Imam Abdel Ali. C'est la conversion aujourd'hui de Hamza et Omar.
Alors voilà, pourquoi on s'arrête sur ces deux événements? Parce qu'elle traduit le passage d'une période secrète à une période notoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces deux personnages se sont convertis à l'islam, le prophète n'avait plus besoin de dissimuler la religion. Et surtout parce que Omar Khattab, quand il s'est converti à l'islam, il a interrogé le prophète en lui disant « Ya Rasul, alasna ala al-haq, ne sommes-nous pas dans la vérité ?» Et le prophète a dit « Oui, bien sûr. » Et il dit « Ne sont-ils pas eux dans le faux ?»« Alaysu ala al-batil, ne sont-ils pas eux dans le faux ?» C'est-à-dire leur ennemi, les mouchriquins, les idolâtres. Le prophète a dit « Oui, bien sûr, ils sont dans le faux. » Il dit « Faliman ardad dani et afidir. » Pourquoi acceptons-nous d'être restés dans l'avilité, dans l'humiliation, dans le secret, comme des rats cachés, etc. Et là, Allah Azza wa Jal va révéler le verset coranique qui va, dans lequel Dieu dit à son prophète « Fasda bima tu'mar. » On a cette expression au Maghreb quand on parle de boucan, quand on dit ouais quelqu'un il fait le bazar, il fait le boucan, on dit il sda, hein, ceux qui m'entendent connaissent cette expression sda, ça veut dire faire le désordre, le boucan, voilà, faire du bruit. Et là nous avons l'expression coranique divine où Dieu dit à son prophète fasda bima tu'mar, c'est-à-dire dévoile et diffuse et répand et voilà, annonce aux gens que tu es le prophète de Dieu. Et c'est ce que le prophète va faire après la conversion et après qu'Omar Khattab ait encouragé le prophète à le faire. Il va donc Dieu va donner raison à Omar Khattab et va ordonner son prophète de diffuser publiquement et notoirement la révélation à la population mécoise. Donc, avant d'en arriver là, Parlons de cette conversion. Comment s'est converti Hamza d'abord? Donc Hamza, c'est d'abord c'est l'oncle du prophète. Il a environ 4 ans de plus que lui. Donc il est né environ 4 ans avant l'année de l'éléphant, puisque le prophète, il est né l'année de l'éléphant. Donc 4 ans avant, Hamza ibn Abd al-Muttalib est né. C'est donc le fils de son grand-père, donc c'est son oncle paternel, puisque Hamza, fils de Abd al-Muttalib, et Abd al-Muttalib est le grand-père du prophète. Donc Hamza est le grand frère de... Donc
c'est le frère de son père.
Voilà, c'est le... Oui, voilà, c'est ça. Il est le petit frère de Abdullah, le père du prophète, qui est mort avant sa naissance. Donc Hamza, alors qu'il était encore bébé, alors il avait 3-4 ans, il avait 4 ans, quand son grand frère Abdullah, le père de Mohammed Sallam, est mort. Et c'est cette même année, l'année où son père est mort, que le prophète est né, puisque le prophète n'a jamais rencontré son père. Son père est mort avant sa naissance. Mais voilà, Abdullah ibn Abd al-Muttalib est mort l'année de l'éléphant, l'année où il est né le prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, Hamza ibn Abd al-Muttalib est un homme connu pour sa force et pour sa jeunesse et sa fougue. C'est un homme très courageux. C'est un petit peu l'homme, comment on pourrait dire, voilà, le costaud, l'homme que tout le monde laisse le passage quand il arrive dans un endroit. Tout le monde a peur de le bousculer ou de lui faire du mal parce que ils ont peur que c'est un homme, c'est un colosse, c'est une armoire à glace, cet homme. Hamza ibn Muttalib était un homme très craint et très, très puissant. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prophète a reçu la révélation, il la diffuse aux gens. Et là, Abu Jahl, donc le pire ennemi du prophète, qui s'appelle de son vrai nom Amr ibn Hisham al-Makhzoumi, de la tribu des Bani Makhzoum, insulte le prophète devant sa tribu, devant les gens de sa tribu. Il l'insulte, il dit des gros mots, il dit plein de mots vulgaires, des obscénités, etc. Et là, Hamza qui passe par là, il entend Abu Jahl insulter son neveu, puisque le prophète est le neveu de Hamza. Hamza qui revenait de chasse, vous savez, il chassait quoi lui dans le désert? Il chassait le lion. Donc c'est pas n'importe qui. Hamza ibn Abd al-Muttalib, lui, il chassait dans le désert, il chassait le lion. Donc il revient de sa chasse avec son épée, non, pas une épée, mais il avait un arc sur les épaules. Il s'approche et il fait le passage pour arriver devant Abu Jahl, donc devant Amr ibn Hisham. Il prend son arc et il lui donne un grand coup sur la tête. Un coup tellement fort que il va en saigner, c'est-à-dire que Abu Jahl, il va saigner de la tête. Là, les amis, c'est-à-dire les gens de Hamza, les gens de Abu Jahl vont se lever pour essayer de lui prendre, de lui porter atteinte, mais Hamza va dire à Abu Jahl, "Rudd 'alayya in istata'at." Montre-moi si tu es capable de rendre ce coup. Faisons-en une affaire, un duel. Mais comme Abu Jahl a peur de Hamza, et il dit à son peuple, laissez-le, c'est vrai, j'ai insulté son neveu, laisse-le. Mais il dira une phrase en plus. Il dira une phrase qui est très étonnante, c'est qu'il dira, comment peux-tu insulter mon neveu, c'est-à-dire Mohammed, alors que moi je dis ce qu'il dit. Et je suis de sa religion. Ana ala dinihi aqulu ma yaqul. Comme dira Hamza ibn Abd al-Muttalib à Abu Jahl. Et là, Abu Jahl, il est étonné, il dit, comment ça? Hamza va suivre son neveu, il va suivre la religion de son neveu. Donc il est étonné. Il dit à son peuple, laissez-le. Et là, Hamza rentre chez lui, il est angoissé, il est tourmenté, il se pose des questions, il dit, mais comment j'ai pu dire ça? Moi, l'oncle, je suis plus âgé que mon neveu, et je vais suivre, c'est moi qui vais le suivre, sa religion, alors que lui, je suis son aîné, je suis plus âgé que lui, etc. Et lui, il est plus jeune que moi, comment ça? Donc il va... Se poser des questions. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le prophète. Il dit, je vais demander des éclaircissements. Et là, le prophète va mettre sa main sur sa poitrine et il va réciter le verset وَمَنْ يُولِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Il dira dont Dieu veut illuminer le cœur et éclaircir le cœur, la poitrine, eh bien, lui guide vers la foi et il sera sous la lumière de Dieu. Quand à peine il est dit ça, à peine le prophète avait dit ça, que Hamza a dit au prophète, Ya Rasulallah, utlu alayya Qur'an, récite-moi des versets du Coran. Et là, il va lui réciter le Coran, et là, tout de suite, il va comprendre que cette parole n'est pas ni sorcellerie, ni tromperie, ni tricherie, ni poésie, ni rien de tout ça. Elle est véritablement la parole de Dieu. Et il va prononcer la shahada, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Donc il va se convertir à l'islam. Donc ensuite, trois jours plus tard, Abu Jahl, qui est énervé contre le prophète parce que l'oncle du prophète lui a donné un mauvais coup sur la tête, il a un bandon sur la tête, il est vénère. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, moi j'en ai marre, c'est pas parce que le gars il est balèze que moi je peux pas me défendre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir son neveu, c'est-à-dire Abu Jahl va voir son neveu. Qui est le neveu maternel, Ibn Urtihi, le neveu de Abu Jahl, c'est Omar Khattab. Abu Jahl est l'oncle maternel de la tribu des Bani Makhzoum de Omar Ibn Khattab, puisque Omar Khattab, son père est de la tribu des Bani Hadi. Les Bani Hadi, mais sa mère est du côté des Bani Makhzoum. Bani Makhzoum qui est la tribu de Abu Jahl. Tout ça c'est les Mekwa. Tout ça, c'est les tribus mécoises. Le prophète, c'est un Bani Hashim. Omar est un Bani Hadi. Abu Jahl est un Bani Makhzoum. Abu Bakr est un Bani Taïm, par exemple, etc., etc. Et toutes ces tribus-là, elles sont tous descendantes de Qusay ibn Kilab, ibn Murra ibn Ka'b, qui sont, bien entendu, soit par les Bani Zuhra, par exemple, comme le compagnon Saad ibn Waqqas et Abdurrahman ibn Auf, etc. Beaucoup sont tous descendants de Qusay ibn Kilab, qui est le premier grand-père, ancêtre, qui a pris les mains, pris les clés de la Kaaba des mains des Banu Khuza'a, et qui va récupérer la gestion et le gardiennage de la Kaaba. Donc ce sont ces tribus-là, mécoises, qui ont le droit de revendiquer ce gardiennage et cette notoriété mécoise.
Et alors, donc, Abu Jahl va voir le prophète, et voilà. Donc.
Et non, il va pas voir le prophète, il va voir Omar.
Il va voir directement.
Il va voir Omar. Il dit, ouais, t'as vu comment il a fait Hamza, il m'a donné un coup et tout ça. Tout ça à cause de son neveu, etc. Ben moi aussi, je suis venu voir mon neveu, je vais voir est-ce qu'il va défendre son oncle. Est-ce que tu viens défendre ton oncle contre cet homme-là qui m'a fait mal? Et là, il est super vénère, Sayyidina Omar. Et il prend son épée, il la sort de son fourré, il a dit je la rendrai que seulement après avoir coupé la tête de prophète Mohammed, de Mohammed. Et il se dirige vers la maison de Arqam, Ibn Abi al-Arqam, là où est-ce qu'il se cachait, comme je l'avais dit, au sud de Safa, et où est-ce que là-bas il se réunissait avec ses compagnons. Il arrive, et sur le chemin, non il n'arrive pas encore, il est sur le chemin, il rencontre un homme qu'il savait être converti à l'islam. Il commence à le prendre, il commence à le tabasser, à commencer à lui donner des coups, il lui dit « Mais laisse-moi, pourquoi tu me tapes moi? Va d'abord voir ta sœur, elle-même elle est convertie. » « Quoi? Ma sœur ?» Omar, la sœur de Omar est convertie à l'islam. Il dit « Oui, ta sœur elle est convertie à l'islam. » Elle s'appelle Fatima. Fatima bint al-Khattab, la sœur de Omar ibn al-Khattab. Rien à voir avec Fatima, la fille du prophète. Hein. Ça, c'est autre chose. Donc, Fatima bint al-Khattab est mariée avec le cousin de Omar, qui s'appelle Saïd ibn Zayd. Saïd ibn Zayd. Il me reste encore une minute.
Non, on fera la fin après la pause.
Après la pause, allez, on y va.
On a eu une belle mamounade, là. Hein.
C'est-à-dire ?
Le furet. Ah, il est beau, celui-là. 2 €.
J'ai pas compris.
Le furet.
Le furet.
Il sort son.
Ah, tu parles du le hamster d'Odeya.
Mais non. Bon, allez, l'imam Abdelali est avec nous. C'est l'islam au présent jusqu'à 11h.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Alors, avant d'aborder la question d'un enfant, imam Abdelali, j'aimerais que vous terminiez pour nous. La conversion de Omar.
Oui, alors Sayyidina Omar al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, de la tribu des Bani Adi, est cet homme qui d'une certaine manière, contribué, pas simplement de manière symbolique, mais de manière très significative, a contribué à rendre de la vigueur et de la force au message, donc à la mission du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc à partir de là va commencer cette période notoire. C'est à partir de sa conversion. Donc je disais que au moment où est-ce qu'il commence à taper sur ce compagnon du prophète qui sortait de la maison de Dal Arqam, où est-ce qu'il venait de recevoir la révélation. Donc il était encore dans l'euphorie de la foi, etc. Il est choqué par ce comportement de Omar Khattab qui commence à le molester, à lui taper dessus, etc. Et donc cet homme qui dit mais lâche-moi, arrête de me taper dessus, si tu veux taper sur quelqu'un, bah d'abord commence par ta famille. Il me dit qui ça? Il me dit ta sœur Fatima bint al-Khattab, elle est musulmane. Il dit quoi? Ma sœur elle est musulmane? Comment ça elle est musulmane? Et donc il dit oui, elle est musulmane. Et là c'est normal de le lâche. Et il lui dit, comment ça? Et il va voir, rejoindre sa sœur. En s'approchant de la maison de sa sœur Fatima, il entend des récitations du Coran. Et comme elle s'attendait pas à ce qu'il arrivait, donc elle continue à réciter le Coran avec son mari, que je disais son cousin Saïd ibn Zayd, qui est le cousin de Omar al-Khattab, le cousin paternel, donc Saïd ibn Zayd, est le mari de Fatima ibn al-Khattab, et avait un compagnon du prophète, qui était en train de leur réciter le Coran. Cet homme-là, qui entend arriver Sayyidina Omar, Omar al-Khattab, il est énervé, il dit « Ah, Fatima !» Il commence à crier « Fatima !» Lui, tout de suite, il va se cacher dans un coin de la maison, il cherche un endroit dans la maison, il se cache. Et c'est bien entendu le chef de famille, le cousin de Omar, Saïd ibn Zayd, qui ouvre la porte, qui est musulman, hein, il est converti à l'islam, c'est un des 10 qu'on appelle « al-Mubashsharin al-Jannah » qui sont les tout premiers convertis à l'islam. Saïd ibn Zayd ouvre la porte. À peine il a ouvert la porte, que Omar, il le bouscule comme ça. Et il lui dit, elle est où ma sœur? Elle est où ma sœur? Et sa sœur, elle arrive vers lui et dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux toi encore? Et il prend sa sœur, il lui donne une grosse claque dans la figure. Il lui la gifle un grand coup sur le visage. Elle tombe par terre et elle commence à saigner du visage, de la bouche. Elle saigne de la bouche. Et là, elle s'énerve contre lui parce qu'elle aussi, elle a du charisme, elle a du caractère, etc. C'est une famille très caractérielle. Elle lui dit, Irsa ya kafir, va au diable, espèce de mécréants, etc. Elle commence à s'énerver contre son propre frère, alors qu'elle est minuscule à côté de lui. Hein. C'est une petite femme à côté d'un colosse qui s'appelle Omar al-Khattab, qui est le deuxième colosse après Hamza. Et avec Hamza, on va dire. Et donc, il commence à voir, à être gêné, parce qu'il vient de taper une femme, sa sœur en plus, et il commence à être un peu mal à l'aise. Il dit, bon, c'est quoi là, ce que vous êtes en train de réciter? Il dit, bah, c'est la parole de Dieu. Vas-y, il a dit, montre-moi. Parce que Omar al-Khattab, il avait la particularité d'être lettré. C'était un des rares Mécois à savoir lire et écrire. Hein, contrairement aux Mécois, la plupart étaient des Oumiyin. Le prophète, le Coran lui-même dit, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. C'est lui qui a fait descendre parmi les illettrés un prophète parmi eux. C'est-à-dire parmi eux qui lui aussi est illettré. Le prophète est illettré. Alors qu'Omar al-Khattab et Ali et certains compagnons, eux étaient lettrés, étaient capables de lire. Et donc Fatima lui dit non, il n'est pas question que je te donne le livre parce que tout simplement t'es un kafir, etc. Et toi t'es najis. Et le Coran nous dit innamal mushrikuna najas. Les mushrikins sont impurs. Tu peux pas. Il dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me purifier? Il dit tu vois le seau d'eau là-bas, tu le prends et tu te mouilles l'intégralité de ton corps. Il lui dit d'accord. Il prend le seau, il commence à verser l'eau sur sa tête. Vous savez qu'on est dans le désert. Médine est une ville très chaude. À peine 5 minutes après avoir mouillé ses vêtements,
il est tout sec.
Mmh. Et il dit maintenant, allez, donne-moi le livre, le rouleau de papier. C'est un rouleau, un manuscrit. Il prend le rouleau, il ouvre le verset, il trouve le verset sur la Taha. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an al-Tashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa as-samawati al-a'la ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa, etc., etc. Donc il commence à être surpris par cette parole. Il dit mais elle est incroyable cette parole. Et il lui dit mais où je peux trouver Mohammed? Il dit Mohammed, il est dans la maison de l'Arqam ibn al-Arqam. Donc qu'est-ce qu'il fait? Omar, il sort de chez lui. Et il décide d'abord de rentrer chez lui, parce qu'il y en a qui disent qu'il est parti directement voir le prophète. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il est resté chez lui. Et le soir, il est parti à côté de la Kaaba pour écouter le prophète. Et le prophète reçoit la révélation. Et au moment même, il écoute le Coran. Dieu est en train de dire, réciter les versets du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire. Justement le verset de la sourate Al-Haqqa. Attends, je vais essayer de retrouver cette sourate Al-Haqqa pour que je puisse la lire correctement sans me tromper. Où est-ce que au moment même le prophète alayhi salatu wassalam est en train de réciter cette sourate devant et Omar al-Khattab est en train de l'écouter. Et il dit à un moment donné, il se dit dans sa tête, cette parole, elle est super jolie, elle est super belle. Et il semblerait qu'il s'agit de poésie. Et Dieu dit dans le Coran, au même moment, il dit, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. Ce n'est pas la parole d'un poète. Hein? وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Et peu parmi vous sont des croyants. Il dit, ouais, alors peut-être c'est la parole d'un voyant, c'est-à-dire quelqu'un qui pratique la voyance. Un kahin. Et là, Dieu verse le verset Coran directement descend, dit, wala bi qawli kahinin. Et ni la parole d'un kahin, c'est-à-dire d'un kohen, vous savez, les fameux kohan, qui étaient souvent de la, des peuples d'Israël, qui pratiquaient la voyance. Il dit qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin, mais une parole descendue du Seigneur des mondes. ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Personne n'est capable de résister à la grandeur et à la puissance de Dieu, dira Dieu dans ce verset du Coran. Et là, Omar al-Khattab est totalement effrayé. Il commence à ressentir le frémissement de la foi qui intègre son cœur. Le lendemain, il va vers la maison du prophète de l'Arqam, voir le prophète avec l'idée de se convertir. Et là, tout le monde a peur et préviennent le prophète. Ya Rasulallah, Ya Muhammad, Ya Rasulallah, Omar est en train de venir et il va venir pour te tuer parce qu'hier il a promis qu'il allait te tuer. Et les gens étaient restés sur cette idée-là qu'il était venu le tuer. Et donc, à partir de là, il toque à la porte. Hamza reste devant la porte. Des compagnons se mettent à droite et à gauche de la porte pour essayer de le tomber en embuscade. Et Sayyidina Hamza dit laissez-le, laissez-le. In arada khayran fahuwa la. In arada s'il cherche le bien, il aura ce qu'il voudra. S'il cherche le mal, il aura ce qu'il voudra. Et là, Omar al-Khattab rentre et le premier qui lui saute dessus, ce n'est ni Hamza, ni ceux qui étaient en embuscade dans les deux côtés de la porte, mais c'est le prophète lui-même qui lui saute dessus, il l'attrape, il le serre un coup très très fort, il le soulève et il le fait trembler, c'est-à-dire il secoue Omar al-Khattab et il lui dit « Ama kafaka ya Omar ?» N'as-tu pas cessé, ya Omar ? Ne vas-tu pas cesser, ya Omar ? Et là, Omar al-Khattab dira, ya Rasulallah, ya Muhammad, je suis venu me convertir. Je me suis venu écouter la parole de Dieu. Et là, le prophète le relâche, lui dit, assis-toi. Et il commence à lui réciter, et à la fin, il dira, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est ainsi que, grâce à cette parole, à cette histoire-là, que Omar va se convertir à l'islam. Et à la suite de cet événement, nous verrons, inshallah, qu'est-ce qui s'ensuit. Comment cette réalité notoire a été vécue par les compagnons, cette période notoire de la prédication du prophète alayhi sallam à la Mecque, quelles ont été les conséquences et comment l'ont vécu les compagnons du prophète alayhi sallatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhum an jami'i as-sahaba, que Dieu agrée tous les compagnons.
Alors merci Imam Abdelali, parce que c'est une histoire que beaucoup de ceux qui nous écoutent ce matin ne connaissaient pas.
Ouais, c'est vrai que c'est un événement assez fort, puisque la conversion d'un personnage aussi charismatique que Omar al-Khattab n'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas comme la conversion de n'importe quel compagnon. Omar, par sa conversion, l'islam est devenu glorieuse, est devenu très forte. Et voilà. Bah, et là, on en a un qui est glorieux, qui vient de rentrer là. Il s'appelle Ghost, c'est le Black Boy.
Et là, c'est la fin de la tranquillité.
Voilà.
Je pense que Kiki Mamoun n'a qu'à bien se tenir.
Il est où?
Je sais pas.
Ah ben on a perdu Kiki Mamoun. Ouais,
surtout que là il y a le chien qui est là.
Ah
surtout.
Bah oui. Mais c'est ouais. En direct, donc ça se passe comme
tu
ça.
Tu tiens bien, faut s'assurer que. D'ailleurs cherche-le. Bon vas-y.
Non.
Dernière question.
Moi j'appelle ça du direct.
Ouais. Voilà. C'est parce que.
Ça c'est du direct.
Il y a le hamster qui est parti et que justement on va parler des animaux qui meurent.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Une question d'enfant. Mon chat adoré est mort. Est-ce qu'il ira au paradis avec moi?
Eh bien, il faut savoir que seules les créatures qui ont une âme sont concernées par le jugement et donc par une récompense et par un châtiment, c'est-à-dire les êtres humains et les djinns. Ce sont les seules créatures qui sont concernées par le jugement dernier, par donc le fait d'être récompensé par le paradis ou être châtié par la punition de Dieu. Et donc, à partir de là, il faut bien comprendre que les animaux, eux, ne sont pas concernés par le châtiment, par le paradis, par l'enfer. Mais, étant donné que quand on est au paradis, Dieu nous accorde tout ce que l'on veut, eh bien, tu auras au paradis, et là je parle à l'enfant qui vient de perdre son enfant, son chat ou son chien,
ou son animal de compagnie,
ouais. Eh bien, il en aura autant qu'il veut. Il aura son animal plus autant qu'il veut et qu'il souhaite, puisque au paradis on a tout ce que l'on veut. Tout ce que tu souhaites au paradis, tu en auras droit, inshallah ta'ala. Donc il faut surtout pas s'inquiéter. Ton chat, tu le retrouveras au paradis, et peut-être même plus des milliers de clones, autant de clones de chats de ton chat que tu veux au paradis. Donc jamais tu ne ressentiras la tristesse et tu ne seras jamais affligé. Fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. En aucun cas, quiconque ne sera affligé au paradis.
Bon, mais est-ce qu'on a retrouvé Kiki Mamoun?
Non, apparemment.
On n'a pas
Adéa
retrouvé Kiki Mamoun.
De le chercher.
Non, mais là,
c'est chaud,
si on n'a pas retrouvé Kiki Mamoun.
Et surtout qu'il y a Ghost qui est arrivé.
Là, moi, je dis.
Et ma fille qui a l'habitude dès qu'elle voit un chat, lui,
c'est
un chien.
C'est une émission sous tension. Sous haute tension.
Cherche-le, déjà.
Maître Serran s'installe. Imam Abdelali, votre numéro de téléphone.
Alors, je vais donner mon numéro de téléphone pour me libérer, pour chercher Kiki, moi aussi. c'est-à-dire l'hamster de Déa. Oh, c'est drôle, là. Ce qui se passe en direct à la radio, incroyable. Alors, le 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Avec moi, vous allez pouvoir découvrir à Médine où habitait Omar Khattab, où habitait Abou Bakr Sadir, où habitaient les compagnons. Vous allez pouvoir, pendant cette période de la Omra du 10 au 22 février, découvrir l'endroit même où a été vécu tous ces événements-là. La maison de l'Arqam à la Mecque, la maison du prophète Khadija à la Mecque à côté de l'Marwa, etc. Véritablement découvrir l'endroit même où s'est vécu tous ces événements-là. Donc je vous invite, Inch'Allah Ta'ala, à me rejoindre en m'appelant au 06 29 25 35 00.
Bien, Imam Abdelali Mamoun, on va vous retrouver samedi prochain dans un instant. C'est tout droit, Maître Serhan est là aussi, donc beaucoup de tension dans ce studio, vous l'avez compris. Va-t-on retrouver Kiki Mamoun pendant cette courte page de publicité? On vous retrouve dans un instant.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.